Il est 19h, vous êtes à l'écoute d'Europe 1.
Et l'histoire qui se répète donc avec ce nouveau confinement qui se profile.
Emmanuel Macron a donc passé la journée à peaufiner son intervention de ce soir 20h.
Ces arbitrages sont attendus et redoutés. Les impératifs sanitaires et la réalité économique sont difficiles à concilier.
Jusqu'au dernier moment, effectivement, le ministre de l'économie a tenté de convaincre le président de ménager les entreprises et les commerces.
L'Europe tout entière confrontée au même dilemme. Partout, on se demande comment on va pouvoir sauver Noël.
L'actualité ce soir, c'est aussi cette étude inédite qui révèle que 4% des liquides contenus dans les cigarettes électroniques contiennent des substances interdites.
Aux États-Unis, J-6, Joe Biden a voté tout à l'heure par anticipation. On sera sur place, bien sûr, comme tous les soirs, avec le journal de campagne de Xavier Yvon.
Et puis la mort d'un amoureux des mots, le linguiste Alain Rey. Il avait 92 ans. La tendance météo avec Anissa qui nous a rejoint. Le temps redevient sec demain.
Oui, bonne nouvelle. Mais attention, le ciel reste gris sur une grande partie de la France. C'est dans le sud que le soleil revient. Et en force, je vous dis tout à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le président de la République a donc pris sa décision et il va l'annoncer dans moins d'une heure maintenant.
20h ce soir en direct sur Europe 1, les Français sauront à quoi s'en tenir avec les détails de cette nouvelle étape qui devrait vraisemblablement, on le dit depuis hier, passer par un nouveau confinement.
Un peu moins strict, c'est vrai, a priori que le précédent, avec des exceptions, des dérogations. Les arbitrages ont eu lieu jusqu'au tout dernier moment, nous dit-on. Certains ont d'ailleurs tapé du poing sur la table.
Oui, Bruno Le Maire, notamment le ministre de l'économie, estime qu'il ne faut pas tout arrêter parce que la crise économique qui en découlerait pourrait être dramatique. Et il l'a fait savoir donc ce matin lors du Conseil de défense, Emmanuel Dutheil.
Oui, ce sont les médecins et les scientifiques qui ont repris le pouvoir. Voilà ce que l'on dit fataliste dans les couloirs de Bercy. Bruno Le Maire a donc jeté, nous dit-on, ses dernières forces dans la bataille ce matin lors de ce Conseil de défense. Selon les indiscrétions d'un participant, le ministre de l'économie s'est lancé dans une tirade très préparée et très ferme pour militer pour un couvre-feu limité. Il a plaidé notamment pour une ouverture large des commerces. Si tu fermes les petits commerces, c'est la révolution. Les mecs sont à bout, résume un de ses proches. Il n'y a pas plus de danger d'aller acheter un livre que son pain ou de se faire coiffer, a tenté de plaider le ministre pour qui ce n'est pas possible de laisser l'économie, je cite, s'écrouler. Ça pourrait avoir des conséquences terribles, résume un de ses proches. Bruno Le Maire en est d'autant plus persuadé qu'il passe son temps là, en ce moment, avec des chefs d'entreprise au téléphone ou avec des responsables de principales branches d'activité. Au minimum, on va voir comment maintenant on peut les aider. On sera au rendez-vous, promettons à Bercy.
Emmanuel Dutheil, chef du service économie d'Europe 1.
Oui, ne partez pas trop loin, Emmanuel, car on vous retrouvera tout à l'heure à partir de 20h30 pour le grand débrief après l'allocution du chef de l'État.
C'est une course de vitesse qui s'engage en tout cas contre la progression exponentielle de l'épidémie. Le président de la République l'a d'ailleurs rappelé en ouverture du Conseil des ministres.
Course de vitesse qui cette fois concerne toute la France et c'est bien ça la différence avec la première vague.
Oui, ce qui veut dire que les transferts de malades d'une région à l'autre seront beaucoup plus compliqués, même s'il y en a quand même eu aujourd'hui d'Avignon à Brest. 4 personnes transférées, ce ne sera bientôt plus possible sans doute. Le plan blanc vient à son tour d'être déclenché dans le Grand Ouest.
Et parmi les départements les plus touchés, il y a notamment le Rhône et la ville de Lyon, Jean-Luc Boujon, où la situation s'est brusquement dégradée ces derniers jours.
Oui, on a aujourd'hui dans tous les hôpitaux du Rhône 1232 patients Covid pris en charge, alors qu'ils étaient 1250 le 5 avril dernier, date du pic des hospitalisations dans le département. 18 patients de différence seulement. Le 5 avril dernier, il faut se remémorer, on était 3 semaines après le début du confinement. Alors hier, il y a eu 185 nouvelles hospitalisations dans le département. On peut donc craindre que dès ce soir, on dépasse ce fameux pic d'avril. Parmi les établissements où les chiffres explosent, il y a évidemment les hospices civils de Lyon, comme le confirme le professeur Olivier Claris, chef du service de réanimation néonatale.
La situation est vraiment préoccupante et très tendue. Alors aujourd'hui, il y a 201 lits d'occupés, un peu plus de la moitié par des patients atteints du coronavirus. Normalement, notre capacité standard, elle est de 139, qu'on a augmenté pour la 3e fois par palier successif. Donc c'est la 3e augmentation qui permet d'arriver à 201, en sachant qu'au maximum de la crise de mars-avril, on était arrivé à un peu plus de 270. On s'en rapproche indiscutablement.
Voilà, on s'en rapproche, mais on n'y est pas encore et c'est le tout petit motif d'espoir du moment. Le nombre de patients en réanimation reste moins important qu'au printemps, 192 contre 304 à l'échelle du Rhône. Ça veut dire qu'on prend mieux et plus vite en charge les patients, mais cela ne pourra tenir indéfiniment, d'où la nécessité d'une mesure forte. Les soignants plaident évidemment pour un reconfinement.
Jean-Luc Beaujean, correspondant d'Europe 1 à Lyon. Et la France n'est pas la seule à subir cette deuxième vague de plein fouet.
Oui, toute l'Europe cherche aujourd'hui, c'est vrai, la parade. On vous raconte régulièrement comment nos voisins mettent en place, eux aussi, avec plus ou moins de succès, des couvre-feux ou des confinements partiels.
Isabelle Horry, on vous retrouve, vous êtes la correspondante d'Europe 1 à Bruxelles. Et face à cet ennemi commun, Isabelle, partout, on se pose les mêmes questions.
Et oui, partout ailleurs sur le continent, on se demande aussi comment atténuer cette deuxième vague, y compris bien sûr ici à Bruxelles. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, estime que des erreurs ont été commises.
Il semble évident que les stratégies de sortie de confinement ont été en partie trop rapides. Les mesures ont été assouplies trop vite.
Bruxelles exhorte donc les Européens à mieux faire front commun, par exemple en misant ensemble sur les tests antigéniques plus rapides. 100 millions d'euros vont être débloqués dans le budget européen, un appel d'offres va être lancé. Il faut s'organiser pour tenir jusqu'au vaccin, ça ne sera pas avant avril pour les premiers et il faudra des mois pour que tout le monde puisse en profiter, rappelle la Commission qui a négocié les contrats au nom des 27. Le virologue belge Peter Piot, conseiller spécial d'Ursula von der Leyen, met déjà en garde contre un relâchement d'ici la fin de l'année.
Est-ce qu'il y aura une trêve? Tout dépendra de l'efficacité des mesures qui sont mises en place maintenant. Une des leçons les plus importantes de l'été, c'est que si on relâche trop, on va vers une troisième vague, avec peut-être encore plus de morts.
Et la présidente von der Leyen avertit aussi de son côté, Noël en Europe sera un Noël différent cette année.
Isabelle Horry, correspondante d'Europe 1 à Bruxelles.
Deuxième confinement en ligne de mire donc, et en France, en tout cas, on se souvient que de nombreux urbains avaient fui la ville pour rejoindre la campagne.
Oui, ne pas rester cloîtré pendant des semaines dans de petits appartements. Eh bien, l'histoire est peut-être en train de se répéter. En tout cas, en ce mercredi soir, il y a en Ile-de-France deux fois plus de bouchons que la normale ce soir.
Oui, on se souvient aussi de la ruée qu'il y avait eu dans les supermarchés à l'annonce du premier confinement.
Les rayons de pâtes, de farine ou d'œufs dévalisés par peur d'une pénurie. Alors cette fois,
et de papier
toilette, bien sûr. Les Français seront-ils plus raisonnables? Maximilien Carlier, vous vous êtes rendu dans un supermarché lillois. Alors ça n'est pas encore le rush, mais quand même une petite ruée.
Oui, effectivement, le parking de l'hypermarché Cora est bien rempli. Nathalie vient de faire ses courses, son caddie déborde.
Voilà, des packs d'eau, du jus d'orange, du papier toilette, des pâtes, beaucoup de pâtes, parce que je me suis dit, il faut que je me dépêche, il va encore avoir plus rien dans les magasins. On se dit, s'il y a encore un confinement, on va être bloqué, on va pas pouvoir bouger. Donc oui, on se prépare maintenant, on commence à avoir l'habitude, on va dire.
Stocker des produits de première nécessité, faire le plein, c'est incompréhensible pour Sofiane et Isabelle, deux habitués.
Les gens, ils s'affolent tout de suite, on n'est pas en guerre, c'est juste un confinement et je suppose qu'il y aura des heures de sortie.
On est en train de revivre en fait les premiers instants du confinement il y a 6 mois. C'est-à-dire la panique générale. Les gens paniquent et ils font pas attention à la DLC et ils vont remettre toutes ces courses-là à la poubelle dans 3 mois. Quoi. C'est ça qui est triste. C'est des moutons.
Et certains, en plus d'acheter de la nourriture, repartent avec quelques livres, DVD, jeux vidéo pour s'occuper. Des cartouches d'encre également afin d'imprimer les attestations de sortie.
Maximilien Carlier dans les supermarchés lillois.
Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
19h09, la suite de votre journal avec le reste de l'actualité. On parle de ces cigarettes électroniques sur le grill, Isabelle.
Oui, jusqu'à présent, c'était un petit peu difficile d'y voir clair. Assez peu d'enquêtes ont été réalisées sur les ingrédients qui les composent. Alors, il y a ceux qui disent qu'elles sont nocives, d'autres qui disent qu'elles sont finalement préférables aux cigarettes.
Eh bien, l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, a décidé de passer en revue la composition des 33 000 produits, rendez-vous compte, de vapotage en vente sur le marché français.
Et Virginie Salmen, eh bien, certains d'entre eux sont potentiellement dangereux.
Sur les 33 000 sortes de liquides en vente, ça va de l'arôme fraise pêche au tabac blond, un peu plus d'un millier contiennent des ingrédients interdits, donc des substances cancérogènes ou susceptibles de favoriser des mutations génétiques ou encore toxiques pour la fertilité ou le développement du fœtus, des ingrédients qui pourtant figurent sur l'étiquette mais qui ne devraient pas être commercialisés. Ça représente environ 4% des liquides en vente. Alors la nouveauté, c'est aussi que vous pouvez aller voir sur le site de l'ANSES, l'Agence de sécurité sanitaire, si la marque du produit que vous utilisez y figure. Il y a des tableaux Excel avec tous les produits. Et si le vôtre contient un de ces ingrédients, vous pourrez décider de changer de marque en connaissance de cause. Il y a encore des zones d'ombre puisque 4 vapoteurs sur 10 composent eux-mêmes leur mélange. Ils font du do-it-yourself et les fabricants des produits qui ne contiennent pas de nicotine n'ont pas l'obligation de déclarer la liste des ingrédients. La prochaine étape, ce sera l'étude sur la toxicité de chacune de ces substances.
Merci Virginie Salmen. L'actualité sociale avec une nouvelle victime de la crise, l'enseigne de prêt-à-porter Célio, qui veut fermer 102 magasins avec à la clé la suppression de près de 400 postes.
Oui, l'industrie du textile qui souffre, l'industrie aéronautique également.
Boeing annonce la suppression de 7000 emplois supplémentaires d'ici la fin de l'année prochaine. L'avionneur américain fera passer son effectif total de 160 000 à 130 000 salariés en 2 ans. Le constructeur qui est lui aussi donc victime collatérale de cette pandémie, mais aussi des problèmes rencontrés par son A737 Max, l'appareil qui attend toujours le feu vert des autorités américaines après 2 accidents qui l'ont cloué au sol.
Les États-Unis, justement, on y reste avec la présidentielle. Ça y est, ça approche, hein, J-6.
Et comme chaque soir sur Europe 1, on retrouve Xavier Yvon pour son journal de campagne.
I'm Joe Biden. I'm Donald Trump. And I approve this message. And I approve this message.
Europe 1 live for the American elections.
Bonsoir Xavier.
Hello, bonsoir à tous.
Alors aujourd'hui encore, les candidats et leurs alliés écument les états clés, mais il n'y a pas que sur le terrain que l'élection se joue.
Et oui, la campagne fait rage aussi sur Internet et surtout sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que les patrons de Facebook, Google et Twitter ont répondu aujourd'hui aux questions d'une commission du Sénat. Les républicains et les démocrates sont pour une fois d'accord. Ils considèrent que les géants du net ont trop de pouvoir dans la diffusion d'informations et pas assez de contrôle. À droite, on est furieux, notamment que Twitter signale les tweets mensongers de Donald Trump. Et à gauche, on reproche aux réseaux sociaux de favoriser la manipulation de l'opinion. Pour limiter son influence, Facebook n'accepte plus depuis hier les nouvelles publicités de campagne et s'est engagé, tout comme Google, à ne plus du tout diffuser de spots politiques après la fermeture des bureaux de vote mardi pour éviter toute désinformation en attendant le résultat de l'élection. Il faut bien se rendre compte que plus de la moitié des adultes américains s'informent via Facebook et que tous les jours, les 10 pages les plus visitées sont celles de sites conservateurs, voire ultra-conservateurs.
Tiens, tiens, à propos de publicité justement politique, on passe à la vidéo du jour, Xavier.
Oui, alors celle postée sur Twitter, tiens, par Donald Trump. L'écran est séparé en deux. En haut, on voit un meeting Trump avec l'arrivée du président en hélicoptère au-dessus d'une foule compacte et hystérique. Et en bas de l'écran, on voit Joe Biden lui arriver devant une poignée de supporters séparés par des cercles dessinés au sol, donc distanciation sociale. Le contraste est saisissant. Alors oui, sur l'enthousiasme, mais aussi sur la gestion de la pandémie. Chez Trump, c'est comme si elle n'existait pas. Chez Biden, on montre qu'on prend le virus au sérieux. Pas sûr au final que ce montage vidéo soit un très bon argument pour le président sortant.
Deux ambiances en effet. Et puis on termine, Xavier, avec des idées d'activités autour de cette élection américaine.
Et oui, puisque vous allez passer un peu plus de temps chez vous ces prochaines semaines, alors voici 2 idées pour vous occuper. D'abord, vous pouvez vous brancher sur la webcam du comté de Washoe, c'est dans le Nevada. Elle diffuse en direct le décompte des bulletins de vote envoyés par la poste. Alors bon, ok, ça consiste à regarder des gens assis à des tables en train d'ouvrir des enveloppes, mais c'est par souci de transparence face aux accusations de triche répétées de manière infondée par le camp Trump. J'ai regardé, c'est très calme, c'est vrai, mais c'est un peu comme les vidéos de nature, ça détend. Et puis il y a une autre activité, un quiz proposé par le New York Times. On vous montre des photos de l'intérieur d'un frigidaire et vous devez deviner en fonction du contenu si son propriétaire vote Biden ou Trump. J'ai essayé, c'est pas évident.
Merci pour ces idées en tout cas Xavier. Pour ceux qui sont intéressés, pourquoi pas, hein. Les liens sont à retrouver sur votre compte Twitter @XavierYvon et bien sûr aussi sur Europe1.fr.
Bien sûr, le journal de campagne de Xavier Yvon, c'est tous les soirs dans le JT de 19h sur Europe.
Notre langue est notre trésor, disait-il. Nous devons en transmettre la richesse à nos enfants. Alain Rey, le maître des mots, s'est éteint aujourd'hui à 92 ans.
Oui, amoureux des mots et de la langue française, il était l'une des figures du dictionnaire Le Robert, Nicolas Caro.
Et oui, en 1952, Alain Rey rencontre Paul Robert. Ensemble, ils publieront ce nouveau dictionnaire que tout le monde connaît aujourd'hui, le petit Robert, le grand Robert, etc. Alain Rey était un puits de science lexicale et un moderne. Pour lui, la langue était un être vivant, capable d'évoluer avec la société.
À partir du moment où on s'aperçoit que la langue bouge, et c'est inévitable, et c'est toujours le cas, et ça a toujours été le cas, eh bien, on est bien obligé d'admettre que certaines des fautes qui sont commises aujourd'hui vont devenir plus tard des règles. C'est finalement la majorité qui a raison, toujours en matière de langue. La langue est le plus démocratique des moyens d'expression.
Les hommages se multiplient aujourd'hui. Tous saluent sa gentillesse qu'il portait, c'est vrai, dans son regard bienveillant et sa bonhomie sous ses faux airs de mousquetaire, avec sa moustache, sa barbichette et ses longs cheveux blancs. Le comédien Stéphane de Groot, co-auteur d'un livre avec Alain Rey, se souvient de leur rencontre.
J'avais l'impression de rencontrer un monument. J'étais très ému parce que, comme je suis très attaché aux mots et à cette langue qui est un vrai trésor, J'avais en face de moi un chercheur d'or.
Les mots préférés d'Alain Rey n'étaient pas les plus compliqués ou les plus alambiqués. J'aime, disait-il, les mots qui n'ont l'air de rien, mais qui sont aussi difficiles à définir que bonheur ou liberté.
Merci Nicolas Carreau, spécialiste littérature d'Europe 1. Et puis je vous donne des nouvelles. Julien du PSG qui affronte en ce moment à Istanbul le club du Bachar Şehir, match de Ligue des Champions. Ça fait 19 minutes qu'on joue.
Şehir.
19 minutes de jeu, 0-0. Et un peu plus tard, à 21h, Rennes se déplacera à Séville également dans le cadre de cette Ligue des Champions.
Bien, merci Isabelle. On vous retrouve demain évidemment à partir de 18h. Un point sur le temps avec vous Anissa. Moins de pluie demain, mais prudence ce soir dans le Nord.
Oui, parce que nous avons toujours cette vigilance orange sur le Pas-de-Calais, placée en vigilance orange pour forte pluie. Je vous rappelle que le vent souffle aussi hein, sur les côtes de la Manche, les côtes de la mer du Nord, prudent jusqu'à 100 km/h. Demain, le ciel reste gris sur la moitié nord avec, allez, à la frontière, sur les frontières de l'Est, quelques légères averses. Mais alors, sinon, la plus belle journée sera sur la moitié sud où le soleil brille dès le début de journée. Dans l'après-midi, le soleil arrive sur la façade atlantique. 12 à 21 degrés au meilleur de la journée. 12 à 16 sur la moitié nord, il fait un peu plus frais. 16 à Paris et 17 à 21 degrés sous le soleil dans le sud.
Quelle chance. Merci Anissa.
À demain.
On vous retrouve demain, évidemment.
Europe 1.